Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien sûr, avec plein de choses dans l'actualité sportive du jour et la FECA Foot. La FECA Foot est dans la sauce et les Lions indomptables aussi. Par conséquence, ou inconséquence d'ailleurs, l'un des champions d'Afrique a hier été oublié à Bruxelles. Le retour d'Ambroise Oyongo Bitolo vers son club de Montréal n'avait pas été programmé. Décidément, ça va très mal dans la Fédération des vainqueurs de la CAN et notre correspondant Jean Bruno Tagne nous en dira plus sur les dessous d'un encadrement qui fait preuve d'un amateurisme déconcertant. Barça PSG en Ligue des Champions, oui, vous entendez bien, l'occasion d'une revanche, mais une revanche version féminine. Hier soir, les Parisiennes se sont qualifiées en demi-finale de la compétition européenne et elles le disent, elles veulent prendre la revanche des mecs. Les Lyonnaises, tenantes du titre, sont aussi dans le dernier carré. Vive les femmes! Michel Platini, victime d'un complot pour ne pas présider la FIFA, on s'en doutait, on l'imaginait. Mais aujourd'hui, des détails font surface. Une longue enquête de nos confrères du Monde explique comment Sepp Blatter a infligé à son ancien allié une torture chinoise qui a abouti à la mise à l'écart de la planète football du triple ballon d'or des Bleus. Pour en parler dans ce studio, nous avons Franck Simon, notre confrère de France Football. Bonjour Franck.
Bonjour Annie. Bonjour à tous. Bah oui, ça va bien. Lendemain d'une belle qualif parisienne chez les filles.
Hein, vous y étiez. Vous allez nous raconter des détails de cette victoire. Il y a aussi Philippe Doucet. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était Addis Abeba.
Ouais, c'est chic.
Bonjour.
Tout va bien, Madame Annie, bien remise du périple.
Oui, très bien. Très intéressant, on va dire. Et puis Étienne Moati, notre confrère de l'équipe. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour messieurs, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti. Ambroise Oyongo Bitolo se souviendra de sa dernière sélection avec le Cameroun. Le latéral des Lions Indomptables, qui compte une trentaine de sélections, s'est retrouvé tout seul à l'aéroport hier, oublié des siens. Enfin, oublié par la FECA Foot, qui n'avait pas prévu son billet pour le ramener au Canada. Lui qui joue pour l'Impact Montréal, en MLS donc. La mésaventure de l'international n'est qu'un des épisodes de cette session de matchs amicaux en territoire belge. On en a déjà parlé hier dans Radio Foot. Nous vous en parlions des joueurs interdits, notamment d'aller déjeuner dans leur hôtel pour une facture qui n'avait pas été réglée à temps par leurs dirigeants. Alors hier soir, la fédération camerounaise, la FECA Foot, a voulu se justifier par la voix du premier vice-président Alioum Aladji au micro de Joël Wadem.
Il y avait une facture de 5 000, 6 000 euros sur 40 ou 45, 50 000 que la fédération avait déjà payé. Il y a eu dysfonctionnement, c'est sûr. L'hôtel, on devait payer avant. Ça n'a pas été fait, c'est clair, c'est net. À notre niveau, nous allons prendre nos responsabilités. Établir qui a fait quoi, à quel niveau, ça n'a pas marché. Parce que nous avons la fédération, la FECA Foot, avec beaucoup de démembrements autour de l'équipe nationale, nous avons la coordination. La fédération devait payer 38 000 euros. La fédération l'a fait. Et cette facture qui devait être payée à leur hache ne l'a pas été. L'hôtel a réagi de manière spectaculaire, il faut le dire. Qui est responsable? Nous allons, comme je dis, établir les responsabilités et prendre des mesures pour que ça ne se répète plus. Et les responsables vont payer parce que c'est inacceptable pour notre équipe nationale.
Il y a eu dysfonctionnement, reconnaît la FECA Foot. Nous sommes en ligne avec Jean-Bruno Tagne, notre confrère du Cameroun, qui connaît si bien la tanière et a longuement écrit sur les Lions Indomptables. Bonjour Jean-Bruno.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Jean-Bruno, avant de parler des détails de ces dysfonctionnements, est-ce que l'affaire d'abord est beaucoup commentée au Cameroun? Parce que finalement tout cela a eu lieu du côté de Bruxelles. Est-ce que les Camerounais le savent et en parlent?
Oui, pratiquement tous les journaux ont fait des sujets sur cette affaire. Les réseaux sociaux se déchaînent. Parce que effectivement, c'est quelque chose qui ternit considérablement l'image des champions d'Afrique. Donc tout le monde en parle et justement les journalistes en ont profité pour ressusciter également quelques cas de dysfonctionnement qu'on a observés au sein de cette équipe nationale. Parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois. Et ce qui est retentissant, c'est que le coach a eu le courage de le dire publiquement, parce que jusqu'à présent, c'était des confidences qu'on faisait aux journalistes et tout, et cette fois, le coach est lui-même monté au créneau pour décrier tous les dysfonctionnements qu'il y a au sein de cette équipe nationale-là.
En fait, la FECAFOOT, elle a des problèmes d'argent, ce qui peut paraître amusant, puisqu'elle vient de toucher une prime pour les vainqueurs d'Afrique, mais...
4 millions de dollars.
4 millions de dollars.
Pour le vainqueur.
Mais en fait, elle a des problèmes avec ses comptes bancaires. Certains sont bloqués et c'est peut-être ça qui ferait qu'on ne paye pas les notes à temps.
Bon, disons qu'on ne va pas commencer tout de suite à essayer de trouver des justificatifs ou alors à essayer de dédouaner la fédération. C'est vrai qu'elle a quelques soucis financiers parce qu'il y a au moins deux comptes de la Fédération Camerounaise de football qui ont été bloqués par quelqu'un qui était, qui les a attaqués, l'exécutif actuel, parce qu'il estime qu'ils sont illégitimes, l'élection a été annulée. Donc il y a un long feuilleton judiciaire qui est en ce moment devant le tribunal arbitral du sport, et en interne, les comptes, deux comptes de la Fédération Camerounaise de football au moins ont été bloqués, ce qui veut dire que la Fédération n'a plus toutes ses ressources. Mais il faut dire que ces dysfonctionnements qui relèvent de l'amateurisme, hein, ne datent pas d'aujourd'hui. En 2015, lorsqu'on préparait les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, lorsqu'on préparait la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions en Ontario étaient en regroupement au Gabon, on a séquestré l'équipe nationale de football du Cameroun à l'hôtel au Gabon, parce qu'ils n'avaient pas encore payé leur facture. Donc ce n'est pas la première fois. Le sélectionneur Volker Finke, qui a été viré, à plusieurs reprises, a utilisé sa carte magnétique pour tirer des sous, pour essayer de régler des factures, parce que cela n'a pas été fait. Donc il est bien gentil, le vice-président, lorsqu'il dit qu'on va prendre des mesures. Bon, peut-être parce qu'il aime voir son poste, mais c'est des choses qu'on a très souvent observées dans le fonctionnement de l'équipe nationale de football du Cameroun, qui relève simplement de l'amateurisme.
Franck Simon, vous qui suivez depuis longtemps le foot africain, tout comme Philippe Doucet, on est malheureusement habitué à ces feuilletons du côté de la FECAFOOT, finalement, qu'ils soient champions ou pas.
Ouais. Énième rebondissement dans l'histoire des Lions indomptables, mais Philippe pourrait je pense, sera d'accord avec moi. C'est l'un des nombreux exemples dans l'histoire du football africain. Je pourrais vous en donner des dizaines. Je me souviens d'une compétition ou d'un match qui ne concernait pas forcément les champions d'Afrique. La Coupe d'Afrique de l'Est et du Centre qui se déroulait en Ouganda à Kampala en 2000. Et moi, je suivais l'équipe du Burundi. L'équipe du Burundi, c'était pas l'équipe du Burundi d'ailleurs. C'était une autre équipe est-africaine qui s'est retrouvée en fait virée de son hôtel parce que la fédération, la puissance invitante, l'Ouganda, était censée prendre en charge l'hébergement de cette équipe. Et ça n'a pas été fait. Bah si, c'était le Burundi d'ailleurs. Et du coup, et du coup, je vais vous dire pourquoi je m'en souviens bien, c'est que ils n'ont pas pu jouer le jour même puisque la facture n'a pas été réglée. Il a fallu décaisser ça. Enfin, ça a fait tout un tout team. Ils ont dû aller manger à l'extérieur. Enfin, c'était compliqué. Ils ont dû jouer deux matchs internationaux en l'espace de 24 heures. Le premier, le lendemain de cette affaire, à 10 heures du matin. C'était la première fois de ma vie que j'assistais à un match international à 10 heures du matin, à Kampala, au vieux stade Nakivubo. Et donc, là, ça concernait une puissance très moyenne, voire une puissance faible du football africain. Mais c'est beaucoup plus retentissant quand il s'agit du champion d'Afrique. Ça a fait du bruit qu'il y a le sélectionneur qui a effectivement, qui était chez lui, qui est en Belgique, et qui lui aussi a livré certaines vérités. Pas oublier que c'est quelqu'un qui n'a pas été payé depuis un certain nombre de mois. Il était réglé très rapidement. Je pense que le correspondant pourrait confirmer ça. Il y a un papier aujourd'hui dans l'équipe de notre confrère et ami Hervé Penaud pour l'évoquer. Tout ça pour dire que c'est une suite ininterrompue de dysfonctionnements et qui jette un sacré discrédit sur, non seulement sur le football camerounais, mais sur les autres, hein, quelque part. Hein.
Le football, Antoine. Mais c'est d'autant plus grave que le Cameroun va organiser la CAN en 2019, donc s'ils ne sont pas capables de gérer deux matchs amicaux,
est-ce qu'ils vont être capables ? Et qui sont en à la Coupe des Confédérations dans pas longtemps.
Et qui, entre 2013 et 2015, il y avait eu un comité de normalisation qui était censé remettre à plat tous les problèmes, et on se rend compte que ça se poursuit encore indéfiniment, on n'en voit pas le bout en fait.
Oui, Philippe. Bon, il y a plusieurs choses à dire. Les comités de normalisation, tout ça, ça c'est plutôt des régimes transitoires qui servent à remettre les statuts en place pour qu'ensuite on refasse les élections correctement. Ça ne sert qu'à ça. Donc, faut pas croire qu'un comité de normalisation va régler tous les problèmes. Faut pas l'imaginer.
Non,
la difficulté qu'on a dans beaucoup de fédérations africaines, parce que c'est pas le seul. Le Cameroun a eu des soucis, mais le Sénégal a eu des soucis aussi à Paris. Il a fallu qu'un joueur paye la facture momentanément. Il a été remboursé, le joueur, mais ça veut dire que la fédération fédération n'avait pas prévu le moyen de paiement correct pour. Bon, voilà, la Côte d'Ivoire a eu des problèmes dans le temps, etc.
Il n'y a pas si longtemps, Philippe. Hein. Les histoires de primes, c'était il n'y a pas 2 ans. Hein.
Mais non, mais les problèmes sont permanents et ils ont toujours à peu près la même source. Il y a des gens dans le football qui viennent dans le football pour prendre de l'argent. C'est clair. Il y a des gens et il y en a dans chaque fédération. Il y a des gens qui viennent pour prendre de l'argent. Donc, un des moyens de voler, bah, c'est sur une prime de match, sur des déplacements, sur des billets d'avion, sur de l'hébergement, etc. Donc, ils cherchent à voler un peu d'argent, d'une manière ou d'une autre.
À profiter
de la situation. Et ça aboutit à des situations ubuesques. Tout ça, c'est un problème de gouvernance. Il va falloir professionnaliser les fédérations beaucoup plus avant, parce qu'il y a des gens très bien parallèlement, évidemment.
Non, et puis évidemment, on met en parallèle le professionnalisme des joueurs, maintenant, très grand professionnalisme par rapport à l'amateurisme ou
au non-professionnalisme. Parce que certains dirigeants, qui sont eux très corrects, sont en but avec ces vieilles pratiques qui, malheureusement,
sont des hommes d'affaires. Hein. Il y a des hommes d'affaires parmi les présidents. Prenez Antonio Soare, qui vient d'être élu à la Fédération guinéenne. C'est un milliardaire, c'est un patron de grosses entreprises, d'un conglomérat très important. Et lui, il va pas détourner de l'argent, puisque c'est lui-même qui finance le football guinéen. En revanche, comme le précise Philippe, eh ben, il y a des gens qui sont là pour essayer, si vous voulez, de gratter, tout simplement, et de profiter.
Oui. Étienne. Tout ça est vrai, mais je trouve qu'on donne pas beaucoup de crédit, c'est le cas de le dire, donc, au football africain, aux fédérations africaines, parce que, ne pas servir un repas à des joueurs pour une somme, allez, aussi minime que ça, c'est quand même aussi scandaleux. Et il y a aussi des grands clubs européens, c'est-à-dire ne pas payer une facture immédiatement, ça arrive à des dizaines de grands clubs européens. Et j'ai pas le souvenir, c'est arrivé notamment au Paris Saint-Germain, qui a énormément de moyens financiers, qui a un budget de 560 millions d'euros, et qui a la coutume de laisser traîner des factures, et qui finit par les régler, il n'y a pas de souci. Mais jamais, on a viré un joueur du Paris Saint-Germain de son hôtel, où on n'a pas servi à un joueur, imaginez Thiago Silva ou Cavani, à qui on ne sert pas leur repas.
Mais ça arrive régulièrement, Étienne, tu le sais, hein, aux équipes africaines, partout elles passent dans leur regroupement. On leur refuse des fois des choses tout à fait qui paraissent insignifiantes, que les joueurs eux-mêmes pourraient régler, mais que des fois même les hôtels refusent que ça soit réglé par les joueurs. Ils préfèrent que ce soit la fédération. C'est terrible, quoi.
Mais justement, on va écouter Hugo Broos, parce que c'est vrai qu'Hugo Broos a duré très longtemps, hein, sa diatribe contre ce qui était les instances, la FECAFOOT, et son cas personnel et celui des joueurs. Mais il pose la question évidemment essentielle.
On demande aussi des responsables qui sont professionnels. C'est les gens qui sont déjà pendant 10 jours dans leur fauteuil et qui foutent rien, ça on ne peut pas accepter. Pendant des jours, on demande de payer l'hôtel et qu'il n'y a pas d'argent. Où est cet argent? Je me demande alors. Je dois dire que je me pose des questions. Je vais bien réfléchir sur mon avenir.
Quand il parle de cette délégation, Jean-Bruno, parce qu'on sait que ça a été le problème aussi, c'est-à-dire il n'y avait pas que 20 joueurs qui allaient manger dans le restaurant de l'hôtel, il y avait aussi un encadrement pléthorique.
Oui, effectivement, à chaque compétition, c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui grenouillent autour de cette équipe nationale sans qu'on sache avec précision quel est véritablement leur rôle dans la tanière des Lions Indomptables. Donc, ce sont des copains de dirigeants, ce sont des copines, des membres de famille, ainsi de suite. À chaque compétition, la presse camerounaise rend toujours compte de l'effectif pléthorique qui accompagne l'équipe nationale et qui a une conséquence néfaste dans le fonctionnement de cette sélection nationale-là. Je vais vous prendre un exemple. Au Brésil, lors de la Coupe du Monde, moi j'ai discuté avec le sélectionneur de l'époque, Volker Finter, qui m'a confié que l'équipe n'était jamais arrivée à aucun rendez-vous à l'heure. D'abord, pour aller aux entraînements, lorsqu'on va aux entraînements, le bus des Lions, il est plein. Certains joueurs, parfois, ont même du mal à s'asseoir. Et c'est sur le chemin du terrain d'entraînement qu'on se souvient qu'on a oublié les ballons à l'hôtel. Il faut rebrousser chemin pour aller chercher les ballons. Vous connaissez très bien le Brésil, amis. Les villes sont très, très distantes. Quand il faut aller jouer, par exemple, à Manaus, on arrive à l'aéroport, on est obligé d'attendre sur place pendant 2 heures parce qu'il faut recommencer les répartitions de place. Il y a telle personne qui est liée au président de la fédération qui doit absolument voyager. Il y a les membres de famille de tel joueur. Donc, c'est un tartinage total parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de cette équipe nationale sans qu'on sache très bien pourquoi. Et Philippe Doucet, tout à l'heure, a touché le mot juste. En réalité, Les gens viennent au prix des lions indomptables parce que c'est là qu'il y a de l'argent et c'est un argent qui n'est pas du tout contrôlé. C'est-à-dire que l'argent circule essentiellement en liquide. Il n'y a pas de virement bancaire, on ne connaît pas ça dans le fonctionnement de l'équipe nationale au Cameroun. Du coup, cela suscite un certain nombre d'appétits. Et si je veux faire du support réuni ou non, il y a un proverbe de chez nous qui dit qu'on ne peut pas manipuler du miel sans se lécher les doigts. Donc,
on a tout compris.
Jean-Bruno,
une question encore. Qu'est-ce qu'il peut se passer? D'abord, Hugo Broos, on vient de l'entendre. Il dit qu'il réfléchit à son avenir. C'est quand même un sélectionneur qui est là depuis un an, qui a amené cette équipe au titre suprême en Afrique et ils vont bientôt disputer la Coupe des Confédérations. C'est au mois de juin, du côté de la Russie. Mais surtout, à la FECAF, que peut-il se passer? Parce qu'on sait qu'il y avait Issa Hayatou, le Camerounais, qui peut-être aider aussi un peu à alléger les exigences du côté de la CAF. Est-ce que ça peut changer ça? Et puis Antoine faisait allusion à cette CAN 2019 théoriquement organisée dans votre pays.
Alors, deux choses. D'abord, je pense que rien ne va se passer. Les gens vont bavarder, on va faire du bruit pendant quelques jours et d'ici la semaine prochaine, on n'en parlera plus parce que je vous dis, moi j'ai fait deux livres et les deux livres disent pratiquement la même chose parce que rien ne change depuis 2010.
À moins Jean-Bruno, à moins que Broos ne parte, ce qui est quand même une éventualité dont on parle.
Je suis presque convaincu. Voilà, et je suis presque convaincu que Broos va partir. S'il reste, je serais surpris parce qu'il a maintenant un joli prétexte pour partir. Parce que un gars qui va à un match comme celui-là, ses joueurs ne peuvent pas manger, c'est-à-dire manger ce qu'il y a de plus banal dans la préparation d'une équipe. Je pense que il a fait quelque chose d'extraordinaire en réussissant à remporter la Coupe d'Afrique des Nations et il commence à comprendre que ça a été quelque chose vraiment inédit et ça m'étonnerait qu'il continue dans ce tafouillage-là. Et c'est maintenant aussi que les Camerounais vont se rendre compte de l'importance de Issa Hayatou pour eux. Parce que pendant longtemps, Issa Hayatou, il était à la CAF, il nous a servi de parapluie sur un certain nombre de bêtises. Maintenant, on va être obligé d'être correct comme tous les autres pays. On n'a plus le parapluie, il est tombé. Donc, ça va être très, très compliqué pour la Fédération Camerounaise de football. Dans les réseaux sociaux, il y a quelque temps, lorsque Issa Hayatou a été déboulonné à la CAF, moi, j'ai lu des gens qui commençaient à s'interroger si on ne va pas nous retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019, simplement parce que les gens se disent, mais est-ce qu'on est capable de faire des choses dans les temps, dans les délais? On a réussi l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminine, mais la CAN féminine, ce n'est pas la CAN.
Ouais, c'est autre
chose. Et dernière chose maintenant, c'est que c'est quand même regrettable parce que, pour une fois, le Cameroun aurait pu conserver un entraîneur pendant plusieurs années pour aller à la Coupe des Confédérations de manière sereine, aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que nous accueillons ici au pays de manière sereine, avec un coach qui commence à comprendre l'environnement, qui commence à comprendre également ses joueurs et qui finalement va donner une identité de jeu au Cameroun, parce que nous n'en avons pas. Si on doit changer les entraîneurs... chaque année, donc ouais. C'est un peu compliqué. Voilà.
Franck?
Déjà, on s'est un peu éloigné de la question originelle qui était l'histoire de Oyongo Bitolo. Je pense que lui aussi a peut-être été un petit peu négligent parce que quand vous débarquez quelque part, au moins de se soucier et savoir est-ce qu'on a son billet de retour quand on arrive en Europe, c'était le cas, même s'il est victime là pour le coup. La deuxième chose, je voulais retourner le problème puisque là on dit ouais, ça peut être un prétexte pour Broos à partir, mais la fédération et les autorités camerounaises, et je l'ai lu pas plus tard qu'il y a quelques minutes, peuvent très bien dire qu'elles se sentent aussi insultées et puis on va trouver un accord pour mettre fin à ce mandat d'Hugo Broos. Et donc dans les deux cas, de toute façon, effectivement, on a l'impression qu'on se dirige vers une séparation qui risque de faire
surtout
très, très
que l'Afrique
mal.
Du Sud est à l'affût.
Ouais, surtout que l'Afrique du Sud veut le récupérer. Mais ça fera du mal forcément à l'équipe nationale camerounaise qui s'était remis en ordre de marche, qui ressemblait enfin à quelque chose depuis octobre dernier, depuis le fameux match de Blida.
C'était la sensation qu'on avait eue, en tout cas, ouais. Quand on était au Gabon. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Bruno Tagne, d'avoir été en direct avec nous, avec toutes ces informations. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour continuer à parler de football. À tout de suite.
Ici l'Europe. Radio Foot International. Annie Gasnier.
Retour dans Radio Foot International dans la deuxième partie de cette émission. Pardon. Avec nos invités qui sont là, Franck Simon, Étienne Moati, avec Philippe Doucet et Antoine Grenier.
Qu'on en finisse, s'il vous plaît. Attention. Dessus. Non.
Impossible. C'est pas possible.
C'est incroyable,
Du jamais vu. Il faut que ça tombe sur le Paris Saint-Germain. Il faut que ça tombe sur un club français.
Sur une de la frappe avec Christian.
Et qui sait ce ballon du bout du pied, 4-0 en faveur du Paris Saint-Germain, doublé pour l'attaquant brésilien Christian.
Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes.
Voilà, c'est Nicolas Benito qui voulait vous mettre dans l'ambiance.
Un gardien de but en plus.
Thème.
Il s'éclate là.
Ouais, puis du coup, ça nous amuse aussi. Parce que voilà, Paris Saint-Germain, Barcelone en version féminine, eh ben, on trouvait que ça valait le coup de le souligner et de s'y arrêter. Les filles auront à leur tour l'équipe de Catalogne pour adversaire. Ce sera en demi-finale de la Ligue des Champions puisqu'elles se sont qualifiées hier soir pour leur troisième demi-finale consécutive. Alors c'était au Parc des Princes hier soir, 4-0 contre le Bayern Munich. Une belle victoire, on va y venir sur leur jeu et leur suprématie, mais quand même la défenseur Laura Georges l'a crié dans le micro du parc, elle l'a dit aussi dans celui de Clément Brossard, c'était pour les hommes.
On sait que les garçons, ça a été compliqué face au Barça, il y a eu une désillusion, mais ça sera particulier. Maintenant, on sait qu'il faut avant tout jouer pour nous, et si on peut faire en plus un résultat, ben, pour enrayer un peu cette déception de l'équipe masculine, eh ben on le fera aussi pour eux. Ça ne sera pas une revanche pour nous, non. Je pense que les Espagnols, oui, ce sera une revanche pour elles, puisque l'an dernier, on les avait éliminés. Mais ça sera un gros clin d'œil pour les hommes si on venait à se qualifier, oui, ça c'est sûr, on y pensera.
Inévitable, le clin d'œil aux hommes, Étienne.
Oui, c'est inévitable. Nous, on a titré là-dessus. Le Parisien, donc, a aussi titré là-dessus, évidemment.
Mais avant le match même, on y pensait.
Exactement, on y pensait, évidemment. Et on va y penser quand ce sera la double confrontation. Et évidemment, pour le Paris Saint-Germain, et je crois qu'il est quand même beaucoup plus facile d'éliminer le Barça chez les femmes que chez les hommes. Parce que pour le coup, elles seront vraiment favorites.
D'autant, Franck, en plus, ce sont des filles qui ont déjà, elles, signé une remontada.
Effectivement, au premier tour, elles étaient déplacées à Lillestrøm en Norvège. Elles avaient perdu 3-1. Bon, il y avait eu une petite sanction interne avant la rencontre des joueuses qui avaient été écartées pour raisons disciplinaires, des retards en fait. Bon, ça n'explique pas tout, mais elles avaient perdu. Et une semaine plus tard, elles avaient gagné 4-1. C'était qualifié donc pour le deuxième tour contre une équipe, je crois, du Kazakhstan. Et nous voici avec une deuxième équipe française, parce qu'il y a l'OL aussi, hein, qui est en demi-finale. On a deux équipes françaises dans le carré d'as. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour un pays qui s'apprête à organiser dans pas longtemps une Coupe du Monde féminine et puis qui est qualifié pour l'Euro aux Pays-Bas en juillet. Donc voilà, c'est franchement très très bon pour le foot féminin français.
Les grands clubs français commencent peu à peu à vraiment miser sur le football féminin, Philippe. Alors ça compensera peut-être pas la défaite des hommes,
non.
Malheureusement.
Non.
En tout cas,
pas.
Même pour le président Nasser El Khelaïfi qui était dans les tribunes hier, il y avait même 14 000 personnes. Hein. C'était belle ambiance.
À 26 hier soir. Personnes près, oui.
C'est vrai qu'on n'est pas arrivé.
La famille
74. De Franck Simon était absente. Donc,
exact. Mais j'étais présent, je ne les ai pas comptés tous.
Mais en
partout.
Tout cas, Philippe, ouais. c'est une nouvelle manière de pratiquer dans les clubs maintenant parce qu'on sait qu'il y a Montpellier, il y a Saint-Etienne qui mise sur les filles.
Non, mais élargissons. Quand on voit que le Bayern était en quart de finale, je n'ai jamais entendu parler du Bayern féminin. C'est la première
Wolfsburg
fois.
Wolfsburg aussi, il y a une grosse équipe.
Wolfsburg, oui, on en entend parler depuis quelques saisons. Mais là, le Bayern, voilà aussi. Le Barça qui arrive. Voilà, donc les grands clubs, en fait, s'y sont mis. Alors à un moment, on avait l'impression que c'était un peu digne de, vous savez, la compétition où ils mettaient des Formule 1, là, enfin pas des Formule 1, mais des voitures au nom des clubs. Ça faisait un peu ça. Là, on s'aperçoit que c'est sérieux.
Il y a une obligation, en fait, hein, là, en France, notamment. Hein.
Ouais. Et puis ça devient sérieux, quoi. Il y a un véritable investissement. Jean-Michel Aulas met un budget qui doit tourner autour de 6-7 millions d'euros quand même. C'est loin d'être négligeable. C'est du sérieux.
Jean-Michel Aulas, il a compris assez vite que la Ligue des Champions, la grande Ligue des Champions chez les hommes, ça devenait compliqué pour son club. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose de stratégique là-dedans. Et donc, il a misé donc par conviction et aussi par intérêt sur le football féminin, parce qu'on a beaucoup plus parlé donc ces dernières saisons des femmes en termes de Coupe d'Europe à Lyon que des hommes. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, quand on met 560 millions d'euros sur un budget masculin, on peut mettre une dizaine de millions d'euros sur un budget féminin.
Moitié moins, hein,
ça coûte pas grand chose et ça peut rapporter gros en termes d'image.
Elles ont gagné 3 Ligues des Champions, les Lyonnaises.
Et
Antoine.
On parle pas non plus du 4e demi-finaliste qui pourrait être Manchester City. Ouais. Qui joue ce soir contre le Fortuna Gjøling, je crois que c'est du Danois. Ouais. Du coup, on voit effectivement que les grands clubs ont compris.
En Angleterre, c'est le cas, parce que vous avez Arsenal, vous avez Chelsea, vous avez Everton, on a effectivement Man City, on a l'Allemagne, on a toute la Scandinavie qui s'y est mise depuis très longtemps, mais même si on est moins familier des clubs. Mais oui, l'Europe, la vieille Europe a bien compris ça, parce que en vérité, aujourd'hui, tout se passe pour beaucoup aussi aux États-Unis, où il y a un championnat en Amérique du Nord, un championnat pro, où d'où les meilleures joueuses partent, où elles arrivent aussi. Hein, beaucoup d'Européennes, on est françaises aujourd'hui. Amandine Henry est aux États-Unis, je crois, à Portland. Elle est revenue pour 2 mois au PSG. Elle est repartie parce qu'elle appartient à la MLS, non pas au club, mais à la MLS. C'était un petit peu le cas de Didier Drogba quand il était question de lui à Chelsea. Et donc, Amandine Henry, elle va revenir tôt ou tard dans ce championnat de France, parce que voilà, à un moment donné, il faut revenir, il faut renforcer. C'est les grands clubs. C'est l'idée aussi des grands patrons du football français, c'est d'essayer de renforcer leur club avec les meilleurs. Donc faire revenir les meilleurs, faire venir les meilleurs d'Amérique du Sud, y compris les États-Unis. Regardez ce qui se passe à l'OL.
Avec Morgan, hein.
Ouais, mais aujourd'hui, pour avoir parlé
avec. C'est un marché accessible.
C'est accessible. La grande différence entre le football masculin et le football féminin de club en France, c'est que chez les femmes, on est capable d'attirer donc les meilleures joueuses européennes et mondiales. Évidemment, chez les hommes, c'est pas le cas. Par le Paris Saint-Germain, les grands joueurs nous échappent et forcément, on se retrouve un petit peu en
dehors. Même le Paris Saint-Germain n'arrive pas à attirer les très très grands.
Les trois très grands, mais enfin derrière les salaires et les joueurs du Paris Saint-Germain en termes d'effectifs, c'est quand même pas si mal.
On a quand même la chance d'être dans un pays, un championnat féminin où l'OL est considéré aujourd'hui comme la meilleure équipe du monde, le meilleur club du monde. Elles ont remporté la Coupe des clubs champions d'ailleurs avec Patrice Lair à l'époque. Il y a les Ligues des champions, elles ont gagné la dernière au tir au but. Elles sont encore dans le carré d'as. Il y a un fort pouvoir d'attraction avec ce club, hein, par les salaires, mais parce que il y a aussi les infrastructures qui sont de très grande qualité. Il y a un pôle féminin aujourd'hui à l'OL avec de la formation. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas au PSG, et c'est toute la mission qui incombe à Patrice Lair, ce qu'il essaye de faire depuis maintenant un peu moins de 6 mois.
De créer les bases.
Créer un pôle féminin au Paris Saint-Germain avec des structures dévolues uniquement à l'équipe féminine.
Je pense qu'on peut résumer en deux choses. Il y a ce que vient de décrire très bien Franck Simon, j'y reviens pas. Il y a un aspect sportif réel, c'est-à-dire que réellement ces clubs-là veulent s'imposer comme des belles équipes sportives et mettre leur nom en avant comme ça. Et puis le deuxième point, évidemment, c'est que c'est une espèce de politique de marque. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que si on peut être présent là, si on peut être présent en handball, en basket, en féminin, en masculin, etc., on crée une véritable marque qui s'impose dans le sport mondial. Et évidemment, le Paris Saint-Germain, en tout cas, a réellement cette ambition-là, clairement.
Et ça passe par la régularité des clubs français. L'an dernier, Lyon et le Paris Saint-Germain étaient en demi-finale de cette Ligue des Champions. Elles s'étaient affrontées, d'ailleurs. Certains se souviennent de la victoire de Lyon 7-0 contre les Parisiennes. Elles ont pris leur revanche en championnat, les Parisiennes, depuis, puisqu'elles ont gagné 1-0 en division 1. Ça, c'est la première division pour les femmes. Mais il y a une vraie régularité des clubs français. Et le PSG, qui jusqu'ici considéré comme le plus leader du foot féminin.
C'est les plus gros budgets d'Europe.
Absolument.
Les clubs français, tout simplement.
Jusqu'ici, le PSG, qui était considéré comme le poulidor du foot féminin, commence à aller titiller Lyon. Ce sera intéressant pour les années à venir, c'est sûr.
Quand on dit qu'on attire des grandes stars aussi dans le championnat français féminin, est-ce que ça veut dire que c'est un championnat de bonne qualité, Étienne ? Est-ce que c'est un bon niveau ?
Écoutez, c'est un championnat qui est à un très bon niveau avec les deux meilleures équipes, mais il y a énormément d'écart aujourd'hui encore, donc Franck suit ça de près. Il y a quand même un grand écart entre ces équipes-là et ce qu'il y a derrière. Pour le dire clairement, il y a quand même pas mal de raclés encore qui sont donnés tous les week-ends sur les terrains.
C'est un championnat à 2, voire 3 vitesses, puisque vous avez l'OL, le Paris Saint-Germain, Montpellier avec Loulou Nicolas qui lui aussi y a cru avant le PSG.
L'OM arrive.
Il y avait Juvisy aussi.
L'OM arrive doucement, l'OM est promu.
Ouais. Il y a Juvisy.
Guingamp, puis derrière, vous avez effectivement le Guingamp, vous avez le Marseille. La surprise aujourd'hui, c'est effectivement c'est l'OM qui est plutôt dans une bonne position, mais il y a Saint-Étienne qui est présent également. Mais c'est compliqué pour certains clubs. Il y a moins de raclés qu'il y en a eu par le passé en termes d'écart. Vous aviez des fois des 12, des 13, des 15. C'était le cas avec l'OL. Paris Saint-Germain a beaucoup plus de mal à le faire parce que on oublie de préciser une chose sur cette saison. Il y a eu 15 départs à l'intersaison du côté du PSG. Et les experts disaient, ce PSG-là, s'ils font 4e, 5e, ça sera très bien. Aujourd'hui, ils font partie du top 4 européen. Elles sont derrière l'OL. Bon, sachant qu'elles ont 7 points de retard, il y a eu des petits soucis administratifs. Il y a un match qui leur a été décompté en début de saison pour une erreur administrative. Ça rappelle
comme
des
quoi,
choses.
Comme quoi, il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des problèmes.
Ouais, et puis chez les hommes, puisque ouais, PSG connaît
qu'elles
aussi.
Elles avaient fait jouer Cavani, franchement, c'est pas normal.
Non mais c'est pour dire qu'en fait c'est un PSG, ce PSG s'est reconstruit très rapidement, il n'a rien à voir avec le PSG d'il y a 6 mois en arrière, et que c'est toute la difficulté de l'ère d'essayer de talonner
Patrice Lair
l'entraîneur de talonner l'OL, il connaît bien, c'est lui qui a construit l'OL avec Aulas. Donc
et justement on va l'entendre Patrice Lair, parce que lui qui a une longue expérience justement à la tête des filles, il avait très bien préparé ce match retour, évidemment en espérant, oui, vous allez nous dire pourquoi d'ailleurs.
Plus d'intelligence, un peu moins fougueux, toi. Plus de maîtrise. On savait qu'on pouvait les inquiéter sur des balles arrêtées, en phase de jeu stratégique, toi. On les a bien travaillés. On a travaillé en vidéo hier, Et puis ça a marché, ça marche pas toujours. Hein. Peut-être plus de présence dans la surface. Avant le match, j'étais visité avec mes filles, les deux surfaces. Hein. J'aurais bien dit, les deux, là, ils sont à nous. Hein. Défensivement, s'il faut éclater un ballon à la tribune, on s'en fout, on l'éclate. Mais après, dans les 18 mètres adverses, on éclate les filets en face.
Franck, la session visionnage vidéo, la préparation d'un match, c'est exactement comme pour les hommes.
Oui, c'est.
Vous les avez suivis alors pendant deux jours.
J'étais top secret, mais effectivement.
Un homme parmi les femmes, cette
fois. J'étais. L'encadrement technique et est mixte aussi au Paris Saint-Germain. J'ai eu l'occasion d'assister à ça. C'était une grande première pour moi parce que même chez les hommes, j'avais pas pu assister à des analyses vidéo. C'était très précis, très bien détaillé. Elles étaient super attentives à ce qui s'est dit. Il y avait une séance d'entraînement où elles avaient déjà commencé à travailler ça, parce que ça avait été le point de discorde, hein, le fait qu'elles aient mal négocié les coups de pied arrêtés, notamment à l'aller. Et mardi après-midi, il y a eu ça. Et puis ensuite, il y a eu la séance pour appliquer ça. Alors nous, les médias, on avait été évincés, parce que c'était une séance, on avait le droit qu'à 15 minutes, comme d'habitude. Et hier, on a vu le résultat. 4e minute, 12e minute, 2 buts sur 2 phases arrêtées. Elles avaient très très bien assimilé ça. C'est une des grande qualité du football féminin et des joueuses féminines, que ça soit en équipe de France ou dans les clubs. Voilà, elles sont très intéressées par tous les aspects tactiques. Elles assimilent ça très très vite, mieux que les garçons. C'est ce que disait un ancien sélectionneur des Bleus, Philippe
comme
Bergeron.
Comme à l'école, les filles sont plus douées.
Sans surprise, en réalité.
Mais elles vont moins loin à la fin. C'est quand même extrêmement injuste.
Ça c'est injuste, effectivement. Il n'y a pas la parité des salaires. On en est bien loin entre les femmes.
Il faut enlever 1 ou 2 zéros au moins.
À minima. Mais oui, non, la vidéo, ça a super bien fonctionné. Mais ce qui était très intéressant et aussi drôle, c'était de voir comment réagissait Patrice Lair, parce que c'est vraiment une personnalité, c'est un tempérament. Et alors, il y a eu ça le mardi après-midi. Et puis hier, avant le match, j'étais à la causerie, à l'hôtel, avant qu'elle ne parte. Et là aussi, ça a été autre chose. Et ça m'a rappelé, toute proportion gardée, Aimé Jacquet, quoi. Parce que il a vraiment fait vibrer les joueuses. À un moment donné, pendant le speech, il a même affiché Barça. Il a parlé du Camp Nou. J'ai un rêve, je suis fou, mais j'ai envie que vous rêviez avec moi. J'ai envie de vous emmener dans ce rêve-là et tout. Et il en parle. Et il est comme ça. Il essaye de faire bouger les lignes au Paris Saint-Germain. Il a fait comprendre à ces joueuses là où ils voulaient en venir. Maintenant, la difficulté, c'est de faire prendre conscience de tout ça à l'équipe dirigeante, parce que au Paris Saint-Germain, la priorité, c'est quand même pas l'équipe féminine. Hein.
Alors, elles joueront, c'est à la fin du mois, le match
22
aller.
Et 29.
Voilà, ouais. 29 avril. Et 20, avril. Donc, match aller au Camp Nou. Et l'OL et le Paris Saint-Germain remportaient ces demi-finales, elles pourraient se retrouver en finale, ces deux équipes françaises. Alors, c'est jamais arrivé, encore une finale 100% française. Et Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui traite si bien ses filles en les emmenant notamment toujours dans son avion privé, il ose à peine y croire à cette finale.
En rêver, je ne sais pas, mais c'est possible. Et en tout cas, ce serait très bien pour le football français. On aura une Coupe du Monde bientôt en 2019 en France, du football féminin. Ce serait bien de pouvoir effectivement faire une finale franco-française de Champions League. Maintenant, on n'en est pas là. Il faudra battre en demi-finale une très forte équipe, probablement Manchester City. Mais pour le moment, chaque jour... délivre sa certitude.
On n'en est pas là, Étienne, mais c'est réaliste en tout cas de pouvoir l'envisager.
Sportivement, c'est tout à fait réaliste et ça donnerait un coup de projecteur incroyable donc sur le football féminin. Quand on connaît les relations orageuses entre Jean-Michel Aulas et les dirigeants actuels du Paris Saint-Germain, je pense qu'on va en parler pas mal de temps.
Il s'entend bien avec le coach, avec Patrice Lerre.
Ils ont travaillé
longtemps ensemble et ils s'apprécient énormément. Mais c'est vrai que ça peut être drôle.
Quand on écoute Jean-Michel Aulas, il s'entend bien avec tout le monde, mais il aime bien piquer un petit peu tout le monde aussi.
Surtout quand on lit ses tweets, on s'en aperçoit. Vraiment. Bon ben voilà, on aura rendez-vous à la fin du mois après la Ligue des champions des hommes avec celle des femmes. Depuis un an, un mois et un jour, la FIFA a un nouveau président. Alors on le sait tous, hein, Gianni Infantino, le fringant quadragénaire hein, qui occupe le siège suprême des instances du football. Alors évidemment, il veut que ça se sache, on le voit beaucoup. Il veut surtout qu'on sache que bien qu'il soit suisse, avocat et valaisan, eh bien il n'est pas à confondre avec Sepp Blatter, en tout cas théoriquement. Sepp Blatter à qui on a cru pouvoir imaginer que Michel Platini pourrait succéder, l'ancien capitaine de l'équipe de France. Triple ballon d'or, il a rêvé en tout cas à ce poste à la FIFA, victime ensuite d'un problème au sein de la FIFA qui a conduit le comité d'éthique à l'exclure de la candidature finalement, d'une candidature qui lui tendait les bras, en tout cas il s'était déclaré lui candidat, Étienne Moati. Aujourd'hui on apprend quelques détails quand même dans la longue enquête du Monde sur finalement tout a été ourdi au sein de la FIFA.
Oui, c'est l'hypothèse la plus probable, Michel.
On l'imaginait sans trop avoir de détails, c'est ça ?
Oui, c'est l'hypothèse la plus probable parce que à la FIFA, que ce soit sur le fond et sur la forme, on n'avait pas envie de voir arriver Michel Platini. Il a beaucoup d'adversaires au sein de la FIFA parce qu'il avait envie sûrement de réformer les choses et puis aussi parce que sa personnalité, il est parfois un peu autoritaire, il aurait sûrement changé pas mal de responsables à l'intérieur de la FIFA. Donc il n'y avait pas d'intérêt pour eux que Platini arrive. Il l'avait signé un contrat donc douteux, en tout cas c'est tel comme ça qu'il était qualifié par le comité d'éthique de la FIFA.
Les fameux 2 millions de dollars qui lui ont été versés.
Absolument, c'était des millions de francs suisses, mais France, ça revient aujourd'hui à peu près au même. Et finalement, il y avait pendant 4 ans énormément de gens au sein de la FIFA qui connaissaient l'existence de ce contrat. Donc le plus probable, évidemment, c'est que la fuite émane des services qui soient financiers, juridiques de la FIFA. Quelle personne a donné ce contrat à la justice, ça c'est pas encore déterminé.
Ce qui est intéressant, c'est que la justice, elle a eu ce document, puis depuis elle en a pas fait grand chose. Elle a pas reconvoqué Michel Platini et l'affaire finalement qu'il a fait couler dort sur un bureau de juge.
Il y a eu deux affaires. Il y a eu l'affaire donc sportive, parce que donc d'un point de vue sportif, il a été écarté, sanctionné et suspendu. Et puis il y a les tribunaux civils suisses qui sont saisis depuis un moment. De ce point de vue-là, c'est vrai que le dossier, en tout cas, paraît complètement arrêté, en tout cas en ce qui concerne Michel Platini. Il n'a jamais plus été entendu depuis les premiers jours donc du déclenchement de l'affaire, et il ne sait toujours pas aujourd'hui s'il y aura des poursuites ou pas contre lui. D'ailleurs, il attend impatiemment, même si c'est très long, de savoir quelle est l'issue de ce procès qui n'a pas pour l'instant lieu donc en Suisse, pour, de son point de vue, pouvoir être enfin réhabilité.
Mmh. Est-ce que, Philippe, c'est pas surprenant finalement que ce soit venu de l'intérieur de la FIFA ?
Non, c'est une certitude. De même que quand vous avez une élection, comme en ce moment en France ou ailleurs, quand vous avez une histoire qui sort sur un candidat, c'est évidemment les journalistes sont armés. C'est pas eux qui ont fait des enquêtes extraordinaires. Ils en font aussi à certains moments. Ça existe, bien
comme
évidemment.
Là.
Mais en général, évidemment, il y a quelques ennemis qui envoient des informations au moment voulu. Je pense que pour l'histoire du procès civil, finalement, je crois que Michel Platini ne l'a jamais vraiment craint parce que que le droit suisse est assez permissif et permet de...
Oui, à partir du moment où il y a un
accord, à partir du moment où il y a un accord, car il y avait accord, ça Blatter l'a toujours reconnu, il y avait un accord, il devait payer cette somme. Donc de ce côté-là, il craint pas grand-chose.
Oui, enfin, le camp Platini et ses avocats étaient extrêmement confiants aussi, donc d'un point de vue sportif, et que ça s'est finalement mal terminé aussi.
Plan éthique, par contre, là, il a été épinglé et suspendu. A priori, c'est pour ça que l'affaire est intéressante à suivre, parce qu'on se rappelle quand même que la prochaine élection à la FIFA est très bientôt, elle est dans 2019. Puisque Infantino ne fait pas un mandat complet, puisqu'il a repris. Il a perdu, si vous voulez, une année de Blatter, si j'ose dire, enfin, après l'élection de Blatter. Donc, il a un mandat qui n'est pas complet. Donc, si jamais l'affaire s'arrangeait pour Michel Platini, après tout, il pourrait redevenir sélectionnable.
J'apporte un tout petit démenti à ça, parce que pour l'instant, la suspension qui a été infligée à Michel Platini va au-delà de la prochaine élection à la présidence de la FIFA. D'ailleurs, c'est pour ça que dans son camp, on pense qu'il y a une forme de complot, en tout cas que tout était très bien organisé pour qu'il ne puisse pas être candidat cette fois-ci, et pas non plus la prochaine.
Ça se termine quelques mois après la suspension.
2020, s'il était reconnu innocent par la justice civile suisse, ça changerait pour l'instant rien du tout à sa suspension par les instances sportives.
Oui. Ce qui est intéressant dans cette enquête du Monde, c'est on plonge dans les arcanes d'un monde où il y a des trahisons, des coups de couteau, des alliances un petit peu contre nature. D'ailleurs, l'exemple de la révélation est intéressant de ce point de vue-là, parce que Blatter affirmait que c'était une banque suisse qui avait donné l'alerte après avoir remarqué un virement un peu suspect. La justice suisse, elle, parlait du résultat d'une enquête menée par sa task force football, ce qui semble assez curieux, à une source qui est justement citée par Le Monde et pour qui la masse de données en possession de la justice était trop énorme pour qu'elle puisse tomber par hasard selon Le Monde, un proche de Blatter qui aurait aiguillé les enquêteurs juste avant leur perquisition au siège de la FIFA. Le Monde avance des noms, d'ailleurs. Au départ, on pensait éventuellement à Jérôme Valk, ancien secrétaire général de la FIFA. Maintenant, ça s'orienterait
C'était son adversaire pour présider.
Et maintenant, ça s'orienterait plutôt vers Marco Villiger, qui était un ancien responsable juridique de la FIFA, très loyal à Blatter et considéré comme quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur tout le monde. Villiger, qui était donc loyal à Blatter et qui est aujourd'hui le secrétaire général adjoint de la FIFA, de Gianni Infantino, qui lui-même était proche de Michel Platini. Il y a franchement de quoi perdre son latin et se rendre compte un petit peu
à quel point il y a des plaques la politique dans tout ça,
c'est incroyable, des plaques tectoniques partout dans la FIFA.
Certainement pas Sepp Blatter qui a organisé donc la fuite de ce document, parce que ce document finalement il pénalise Sepp Blatter lui-même,
mais à sa grande surprise quand même.
Oui, donc, non, mais il pénalise Sepp Blatter lui-même.
Oui, mais ça il le savait pas.
Le plus probable, non mais c'est pas Sepp Blatter qui organisait. Sepp Blatter, évidemment, il gardait ce document donc lui-même sûrement dans un coffre dans son bureau pour pouvoir, vis-à-vis de Michel Platini, avoir des éléments pour lui dire, écoute, ne m'embête pas parce que moi j'ai ça et tu sais bien que ça c'était pas forcément extrêmement bien ce qu'on a fait à ce moment-là. Le plus probable, c'est que l'entourage de Sepp Blatter, ceux qui étaient à la FIFA, sachant que Blatter était en bout de course, se sont, on va dire, un petit peu émancipés et que, quitte à nuire un petit peu à Sepp Blatter, ce qu'il voulait surtout, c'était nuire à Michel Platini en faisant sortir ce document, ça nuisait aux deux. Blatter, ça ne les dérangeait plus puisque forcément, il était un peu hors-circuit et Platini, ça permettait qu'il ne devienne pas on-circuit.
Ça veut dire que vous ne croyez pas à l'hypothèse que Blatter avait une enveloppe piégée qui lui a explosé dans les mains?
Je ne crois pas que Blatter avait un intérêt personnel à faire sortir ce document, puisque lui-même aujourd'hui, donc Michel Platini lui attend donc qu'il n'y ait pas de soucis du côté de la justice civile suisse, Blatter, lui, il pourrait avoir de sérieux soucis du côté de la justice civile suisse. Donc il n'avait pas intérêt à la sortie de ce document. Il avait intérêt à tenir Michel Platini en ayant peut-être ce document, mais pas à le faire sortir au niveau de la justice.
Franck ?
Tout ça, moi, je l'observe de très loin. Je le lis effectivement dans le quotidien. Je lis tout ce qui peut être écrit. Mais si vous voulez, moi, ce qui me dépasse, c'est ce qui me rend triste et amer d'une certaine façon. La FIFA, qui est une ancienne institution. Pour moi, c'est plus une institution. C'est une entreprise depuis très longtemps. C'est la World Enterprise avec des milliards tout le temps. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a ce que disait Philippe, la politique dans toute sa splendeur. Moi, je dis dans toute sa laideur. Ben, je veux dire, on se demande. Non, mais c'est dans toute sa laideur. Enfin,
c'est une expression.
Imaginez la distance qui existe entre le pratiquant de football, en Amérique du Sud, en Afrique ou en France, et puis ces gens-là qui se mettent des tacles à la gorge, quoi, qui parlent de discipline, qui parlent de correction, qui parlent de tout ça, qui. Moi, ça, franchement, ça me dépasse, quoi. Et je trouve que ça, c'est un discrédit. On parlait tout à l'heure du discrédit avec la fédération camerounaise. Ouais. Mais c'est, vous voyez que c'est à tous les étages.
Justement, d'ailleurs, on peut remarquer qu'on se souvient au moment où Blatter tombe.
On n'est pas naïf non plus, hein, mais.
Même Platini tombe et tout, ça n'avait ému aucun footballeur. C'est-à-dire qu'il n'y avait eu pratiquement aucun footballeur pour se prendre parti.
Il y a trop de distance, position, il y a trop de distance entre le pratiquant.
Non, mais je vais totalement dans votre sens.
Tout, mais même les pros ne s'intéressent pas à ça. Du tout, du tout, du tout. Ils ne voient pas, bon, en plus, je pense qu'ils ne voient pas forcément en quoi ces instances influent sur leur carrière. Eux, ils voient juste la Coupe du Monde, l'Euro, la CAN. Bon, ils ne se rendent pas forcément compte. C'est peut-être un tort, d'ailleurs. Je pense que les footballeurs devraient prendre davantage de responsabilités et de pouvoir.
Plus venir aussi dans cette organisation.
S'impliquer beaucoup plus, parce que s'ils ne sont pas au pouvoir, c'est aussi parce que très peu s'impliquent. Michel Platini s'est impliqué. Pour finir d'ailleurs sur lui, on théorise sur peut-être qu'il pourrait revenir ou pas. Enfin, rien ne dit qu'il ait envie. Hein. Voilà. Il a peut-être plus du tout envie d'entendre parler de tout ça.
Vous pensez qu'il a envie?
Ah, je pense qu'il en meurt d'envie maintenant.
Se venger peut-être, mais je suis pas sûr de revenir.
Voilà,
je suis pas sûr de revenir.
Ouais, mais la vengeance, elle pourrait venir par un retour, mais je pense que ce sera quand même extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a un jeune président de la FIFA qui s'appelle Gianni Infantino, qui est un très fin politique.
Ah ben, on l'a vu en Afrique.
Qui se met absolument tout le monde dans la poche et donc il sait très bien faire et donc sa future réélection, à mon avis, elle sera relativement aisée. Mais quand on parlait tout à l'heure, je sais que Philippe adore les footballeurs professionnels. Donc il y aurait d'un côté les dirigeants corrompus, méchants et tout pourris, il y aurait de l'autre côté les joueurs professionnels qui sont des anges, je veux dire eux-mêmes évidemment dans les opérations de transfert, ils savent très bien que dans le football c'est quand même beaucoup d'argent qui circule et pas toujours de la bonne manière, donc quand ils voient que ça se passe aussi côté dirigeants, ils sont pas surpris, ça c'est sûr.
Mais ils disent rien, ils le font pas remarquer.
Mais on parle pas souvent des rémunérations des gens dans le football, dans les instances. Je peux vous dire que le niveau de rémunération est tellement considérable qu'on comprend qu'il y a des enjeux politiques derrière.
Oui, et pas que dans la Fédération Internationale. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci à Nicolas Benita et à David Finzel. À demain. Écho d'ici.